Lettre d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus. Septième partie. Le 3 juin 1895. Ma chère Lucie, toujours pas de lettre de toi, ni de personne. Je suis donc sans nouvelles depuis mon départ de toi, de nos enfants, de toute la famille. Tu as pu voir par mes lettres les crises successives que j'ai subies. Mais pour le moment, oublions le passé. Nous parlerons de nos souffrances quand nous serons de nouveau heureux. J'ignore donc ce qui se passe autour de moi, vivant comme dans une tombe. Je suis incapable de déchiffrer dans mon cerveau cette épouvantable énigme. Tout ce que je puis donc faire, et je ne faillirai pas à ce devoir, c'est de te soutenir jusqu'à mon dernier souffle, c'est de t'insuffler encore et toujours le feu qui brûle en moi pour marcher à la conquête de la vérité, pour me rendre mon honneur, l'honneur de nos enfants. Te souviens-tu de ces vers de Shakespeare dans l'Othello que j'ai retrouvés dans un de mes livres d'anglais? Je te les envoie traduits, tu comprends pourquoi. Celui qui me vole ma bourse, me vole une bagatelle, c'est quelque chose, mais ce n'est rien. Elle était à moi, elle est à lui, et a été l'esclave de 1000 autres. Mais celui qui me vole ma bonne renommée, me vole une chose qui ne l'enrichit pas, et qui me rend vraiment pauvre. Ah oui, il m'a rendu vraiment pauvre, entre guillemets, le misérable qui m'a volé mon honneur. Il nous a rendus plus malheureux que les derniers des humains. Mais chacun aura son heure. Courage donc, chère Lucie. Conserve cette volonté indomptable que tu as montrée jusqu'ici. Puise en tes enfants cette énergie surhumaine qui triomphe de tout. D'ailleurs, je n'ai nul doute que tu ne réussisses, et j'espère que ce sinistre drame aura bientôt son dénouement, et que mon innocence sera enfin reconnue. Que te dirai-je encore, ma chère Lucie, que je ne te répète dans chacune de mes lettres? Ma profonde admiration pour le courage, le cœur, le caractère que tu as montré dans des circonstances aussi tragiques, la nécessité absolue qui passe au-dessus de tout, de tous les intérêts, de toutes nos vies même, de prouver mon innocence de telle façon qu'il ne reste de doute dans l'esprit de personne, de tout faire, cela sans bruit, mais avec une volonté que rien n'arrête. J'espère que tu reçois mes lettres. C'est bien la 9e que je t'écris. Embrasse toute la famille, tes chers enfants pour moi, et reçois pour toi les meilleurs baisers de ton dévoué, Alfred. Comme tu le vois, ma chère Lucie, j'espère que quand tu recevras ces dernières lettres, la vérité ne sera pas loin d'être connue, et que nous jouirons de nouveau du bonheur qui avait été notre partage jusqu'ici. Le 11 juin 1895. Ma chère Lucie, j'ai reçu hier toutes tes lettres jusqu'au 7 mars, c'est-à-dire les premières que tu aies adressées ici, ainsi que celles de ta mère et celles de nos frères et sœurs datant de la même époque. C'est sous l'impression de leur lecture que je veux te répondre. D'abord, la joie immense que j'ai eue en te lisant, c'était quelque chose de toi qui venait me retrouver. C'était ton bon et excellent cœur qui venait réchauffer le mien. J'ai vu aussi, ce que je sentais déjà, combien tu souffrais, combien vous souffriez tous de cet horrible drame qui est venu nous surprendre en plein bonheur et nous arracher l'honneur. Ce mot dit tout. Il résume toutes nos tortures, les miennes comme les vôtres. Mais du jour où je t'avais promis de vivre pour attendre que la vérité éclatât, que justice me fût rendue, j'aurais dû ne plus faiblir, imposer silence à mon cœur et attendre patiemment. Que veux-tu? Je n'ai pas eu cette force d'âme. Le coup avait été trop dur. Tout en moi se révoltait à la pensée du crime odieux pour lequel j'étais condamné. Mon cœur saignera tant que ce manteau d'infamie couvrira mes épaules. Mais je te demande pardon si je t'ai parfois écrit des lettres exaltées ou plaintives qui ont dû augmenter encore ton immense chagrin. Ton cœur et le mien battent à l'unisson. Sois donc certaine, ma chère et bonne Lucie, que je résisterai de toutes mes forces pour atteindre le jour où mon honneur me sera rendu. J'espère que ce jour viendra bientôt. Jusque-là, il faut regarder devant nous. Les nouvelles que tu me donnes de nos chers enfants m'ont également fait plaisir. Fais-leur prendre beaucoup l'air. Pour le moment, il ne faut penser qu'à leur donner de la santé et de la vigueur. Courage donc encore, ma chère Lucie. Sois forte et vaillante. Que mon profond amour te soutienne et te guide. Ma pensée ne te quitte pas un instant, de jour comme de nuit. Donne de mes nouvelles à toute la famille. Remercie-les tous de leurs bonnes et affectueuses lettres. Je ne me sens pas le courage de leur répondre. De quoi leur parlerai-je, d'ailleurs? Je n'ai qu'une pensée, toujours la même, celle de voir le jour où mon honneur me sera rendu. J'espère toujours qu'il est proche. Embrasse tes chers parents, les enfants, tous les nôtres pour moi. Quant à toi, je t'embrasse de toutes les forces de mon cœur. Alfred. Inutile de m'envoyer quoi que ce soit comme linge ou comme aliment. J'ai reçu hier de Cayenne des conserves. J'y ai fait également demander du linge dont j'ai besoin. On me remet la revue des Deux Mondes, la revue de Paris et la revue Rose. Continue donc à me les envoyer. Tu pourras y joindre quelques romans de lecture facile. Le 15 juin 1895, samedi soir. Ma chère Lucie, je t'ai déjà écrit il y a quelques jours au reçu de tes lettres du commencement de mars, et mon intention, par ce courrier, était de ne t'envoyer que quelques lignes de profonde affection, car que puis-je te dire que je ne t'ai répété dans toutes mes lettres? Mais en lisant tes chères lettres, en les relisant chaque jour, j'ai ressenti chaque fois, et pour un moment, un léger adoucissement à mes peines. Il me semble ainsi qu'on se rapproche, que l'on sent les cœurs comme autrefois battre l'un auprès de l'autre. C'est quelque chose de l'un qui vient retrouver l'autre. Sûr que tu éprouves la même sensation, je cède à l'impulsion de mon cœur qui voudrait tout faire pour apporter quelque adoucissement à ton horrible chagrin. C'est contraire à la raison, je le sais, car celle-ci me dit d'être calme et patient, que la lumière se fera, qu'il est impossible qu'il en soit autrement à notre époque. Tandis que lorsque je t'écris, c'est avec mon cœur, et alors, malgré moi, tout vibre en moi, contre cette épouvantable situation, si opposée à l'état de nos âmes, pour qui l'honneur est tout. Je sens en moi une telle fièvre de combat, une telle puissance d'énergie pour déchirer le voile impénétrable qui pèse sur moi, entoure encore toute cette affaire, que je veux toujours vous les passer. Quoique je sente très bien que votre sentiment à tous est le même. C'est un débordement inutile, je le sais aussi, mais tu sais non moins bien que toutes mes sensations sont violentes et profondes. Mon cœur saigne dans ce qu'il a de plus cher, Il saigne pour toi, il saigne enfin pour nos chers enfants. C'est aussi te dire, ma chère Lucie, que c'est la volonté que j'ai de voir le nom que tu portes, que portent nos enfants, redevenir ce qu'il a toujours été, pur et sans tache, qui me donne la force de tout surmonter. Je vis concentré en moi-même, je ne vois ni n'entends plus rien. Mon cerveau seul vit encore, et toutes mes pensées sont concentrées sur toi, sur nos chers enfants, dans l'attente de mon honneur rendu. Garde donc toujours ton beau courage, ma chère Lucie. J'espère que nous retrouverons bientôt le bonheur dont nous jouissions et dont nous jouirons plus encore après cette épouvantable épreuve, la plus grande qu'un homme puisse supporter. Je t'embrasse bien fort, Alfred. Le 16 juin, dimanche. Je poursuis ma lettre, toujours pour les mêmes motifs. Et puis, c'est encore pour moi un bon moment que celui où je viens causer avec toi, non pas que j'ai quoi que ce soit d'intéressant à te dire, puisque je vis seul avec mes pensées, mais parce que je me sens alors auprès de toi. Je ne puis donc que te communiquer mes pensées, telles qu'elles se présentent à moi. Une tristesse plus particulière m'envahit aujourd'hui. Ce jour, en effet, nous le passions tout entier ensemble et nous le terminions chez tes chers parents. Mais mon cœur, ma conscience, ma raison enfin, me disent que ces heureux jours reviendront. Je ne puis admettre qu'un innocent expie indéfiniment, pour un misérable, un crime aussi abominable, aussi odieux. Et puis, pour tout dire, ce qui doit te donner, comme à moi-même, une énergie indomptable, c'est la pensée de nos enfants. Comme je te l'ai déjà dit, car les idées qui visent un même sujet se reproduisent forcément. Il nous faut notre honneur et nous n'avons pas le droit de faiblir. Mieux vaudrait sans cela voir nos enfants mourir. Quant à nos souffrances, elles sont égales pour nous tous. Crois-tu que je ne sens pas ce que tu souffres, toi qui es frappé doublement dans ton honneur et dans ton affection? Crois-tu que je ne sens pas ce que souffrent tes parents, frères et sœurs, pour qui l'honneur n'est pas seulement un mot? J'espère d'ailleurs que notre malheur aura un terme et que ce terme est prochain. Jusque-là, il nous faut garder tout notre courage, toute notre énergie. Remercie Mathieu des quelques mots qu'il m'a écrits. Comme ce pauvre garçon doit souffrir, lui, l'honneur incarné. Mais dis-lui que je suis avec lui par la pensée, que nos deux cœurs souffrent ensemble. Il y a des moments où il me semble qu'on est le jouet d'un horrible cauchemar, que tout cela n'est pas vrai, que ce n'est qu'un mauvais rêve. Mais c'est, hélas, la vérité. Mais, pour le moment, nous devons écarter de nous toute pensée affaiblissante, les yeux uniquement fixés sur le but, notre honneur. Quand celui-ci me sera rendu et que je connaîtrai les termes d'un problème insoluble pour moi, je comprendrai peut-être cette énigme qui déroute ma raison, qui laisse mon cerveau haletant. J'attends donc ce moment, sûr qu'il viendra. Je souhaite pour nous tous qu'il vienne bientôt. Je l'espère même, tant est inébranlable ma foi en la justice. Le mystère n'est pas de notre siècle. Tout se découvre et doit se découvrir. Ma journée de dimanche m'a paru moins longue ainsi. Ma chère Lucie, puisque j'ai pu causer avec toi. Quant à nos enfants, je n'ai pas de conseils à te donner. Je te connais. Nos idées à ce sujet sont communes, tant au point de vue de l'éducation que de l'instruction. Courage toujours, chère Lucie, et mille baisers. N'oublie pas que je réponds à des lettres datant de 3 mois et que mes réponses peuvent par suite te paraître vieillottes. Le 21 juin 1895, vendredi. Chère Lucie, je continue notre conversation puisque c'est pour le moment le seul rayon de bonheur dont nous puissions jouir. Il est probable, et je l'espère, que mes réflexions ne correspondent plus à la situation du moment. Entre l'époque où tu recevras cette lettre et celle à laquelle tu as écrit les tiennes, il y aura un intervalle de plus de 5 mois. Dans un pareil laps de temps, la vérité fait bien du chemin. Comme toi, comme vous tous, je suis, j'ai toujours été, convaincu que tout se découvre avec le temps. Si j'ai fléchi parfois, c'est sous le poids de souffrances morales atroces, dans l'attente anxieuse de connaître enfin les termes d'une énigme qui m'échappe totalement. Tu dois comprendre par quel sentiment de réserve je ne te parle à aucun point de vue de ma vie ici. D'ailleurs, les seules pensées qui m'agitent sont celles dont je t'entretiens. Pour le reste, je vis comme une mécanique inconsciente de son mouvement. Il m'arrive parfois, et tu dois éprouver la même sensation, tout éveillé et malgré tout ce qui m'entoure, de rester hébété, me répétant à moi-même, « Non, tout cela n'est pas arrivé, ce n'est pas possible, c'est un drame du roman et non de la réalité. » Je ne puis m'expliquer cette inertie momentanée du cerveau que par la distance infranchissable qui existe entre l'état de ma conscience et ma situation présente. Tu ne peux te figurer non plus quel soulagement m'apporte cette longue conversation avec toi. Je n'ose même pas me relire, tant je crains de retrouver ailleurs les mêmes idées exprimées peut-être d'une façon identique. Mais pour toi comme pour moi, le vrai plaisir est de nous lire. Quand j'ai le cœur trop gonflé, quand je suis saisi de l'horreur profonde de tout, je puise une nouvelle dose d'énergie dans tes yeux, dans l'image de nos chers enfants. Ton portrait, celui des enfants, sont en effet sur ma table, constamment sous mes yeux. Et puis, vois-tu, quand on perd sa fortune, quand on subit une déception de carrière ou autre, on peut, jusqu'à un certain point, faiblir en se disant « Eh bien, mes enfants se débrouilleront, cela vaudra peut-être mieux pour eux que d'être d'aimables feignants. » Mais ici, il s'agit de notre honneur, du leur. Faiblir dans ces conditions serait pour nous un crime impardonnable. Il faut donc, ma chère et bonne Lucie, accepter toutes nos souffrances, les surmonter jusqu'au jour où mon innocence sera reconnue. Ce jour-là seulement, nous aurons le droit de donner libre cours à nos larmes, de dégonfler nos cœurs. J'espère toujours que ce jour-là viendra bientôt. Chaque matin, je me réveille avec un nouvel espoir, et chaque soir, je me couche avec une nouvelle déception. Je n'ai pas besoin de te dire que nous pouvons parler entre nous de nos douleurs. Il faut bien que le trop-plein des cœurs s'épanche parfois, mais qu'il faut les garder pour nous. D'ailleurs, je te sais digne et simple. Tes belles qualités que je n'avais fait, pour ainsi dire, qu'entrevoir dans le bonheur, se détachent en pleine lumière dans l'adversité. Le 26 juin 1895. Je termine aujourd'hui ce long bavardage afin de remettre ma lettre. Je voudrais causer ainsi avec toi matin et soir, mais outre que je t'écrirais des volumes, les mêmes idées se reproduiraient sous ma plume. Fait pour l'action, j'en suis réduit dans ma solitude à revenir toujours au même sujet. La forme seule pourrait varier suivant l'état du moment, mais l'idée resterait la même parce qu'elle domine tout. Embrasse longuement nos chers enfants pour moi. Je suppose que tu ne les garderas pas à Paris pendant les chaleurs. Donne-leur toujours beaucoup d'initiative dans les mouvements. Laisse-les se développer librement et sans contrainte, afin d'en faire des êtres virils. Enfin, puise en eux tout à la fois ta consolation et ta force. Maintenant, je n'ai plus qu'à te dire que je souhaite, que j'espère toujours que ce lugubre drame aura une fin prochaine. Ce serait tant à désirer pour tous, pour nous comme pour nos chères familles. Ta pauvre chère mère, déjà si délicate, ton cher père auront besoin de repos et de calme après une tourmente aussi effroyable, aussi inimaginable, il faut bien le dire. Bien souvent, je me demande quel est l'état de votre santé à tous, avec des nouvelles aussi rares et aussi lointaines. Et combien souvent, aussi, je fixe l'horizon, les yeux tournés vers la France, dans l'espoir que ce sera enfin le jour où ma patrie me rappellera à elle. En attendant ce jour, raidissons-nous, chère Lucie, puisons dans nos consciences et dans le devoir à remplir les forces qui nous sont si nécessaires. Embrasse tous les nôtres pour moi, et pour toi, les meilleurs baisers de ton dévoué mari, Alfred. Le 2 juillet 1895. Ma chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, le jour de ta fête sera proche. Le seul souhait que je puisse formuler, et qui est dans ton cœur comme il est dans le mien, c'est que j'apprenne bientôt qu'on nous rend avec notre honneur notre bonheur passé. Ma conscience et ma raison me donnent la foi. Le surnaturel n'est pas de ce monde, tout finit par se découvrir, mais les heures d'attente sont longues et cruelles quand il s'agit d'une situation aussi épouvantable, aussi bien pour nous que pour nos familles. Tes chères lettres du commencement de mars, tu vois si je retarde, sont ma lecture quotidienne. J'arrive ainsi, quoique bien loin de toi, à causer avec toi. Ma pensée, d'ailleurs, ne te quitte pas, ainsi que nos chers enfants. J'attends avec impatience des nouvelles de ta santé et de celle de nos enfants. Encore de quand dateront-elles? Ma santé est bonne, mon cœur bat avec le tien et t'enveloppe de toute sa tendresse. Je t'ai écrit 2 longues lettres dans la dernière quinzaine de juin. Je ne pourrais que me répéter toujours. Aussi, permets-moi de terminer en t'embrassant de toutes les forces de nos cœurs, ainsi que nos chers enfants. Ton dévoué, Alfred. Baiser à tous les nôtres. Le 2 juillet, 11h, soir. Ma chère Lucie, j'étais sans nouvelles de toi depuis le 7 mars. J'ai reçu ce soir tes lettres de mars et du commencement d'avril, qui étaient probablement retournées en France, puis, de nouveau, celles que tu as remises directement au ministère. Je t'ai déjà écrit ce matin quelques mots, mais je veux vite répondre à tes lettres par le même courrier. Pardon encore, si je t'ai causé de la peine par mes premières lettres, j'aurais dû te cacher mes atroces souffrances. Mais mon excuse est qu'il n'y a pas de douleur humaine comparable à celle que nous subissons. J'espère que tu as reçu, depuis, mes nombreuses et longues lettres. Elles ont dû te rassurer sur mon état physique et moral. Ma conviction n'a jamais varié. Elle est dans ma conscience, dans la logique qui me dit que tout se découvre. La patience m'a manqué. Ne parlons donc plus de nos souffrances, remplissons simplement notre devoir, qui est de faire rendre à nos enfants l'honneur de leur père innocent d'un crime aussi abominable. J'ai reçu également les lettres datant de la même époque de tes chers parents et de divers membres de nos familles. Embrasse-les de ma part et remercie-les. Dis à Mathieu que mon énergie morale est à la hauteur de la sienne. Je t'embrasse de tout mon cœur ainsi que nos chers enfants. Ton dévoué Alfred. Le 15 juillet 1895. Ma chère Lucie, je t'ai écrit de si longues et de si nombreuses lettres pendant les quelques mois durant lesquels je suis resté sans nouvelles, que je t'ai dit et redit bien des fois toutes mes pensées, toutes mes douleurs. Permets-moi de ne plus revenir sur ces dernières. Quant à mes pensées, elles sont bien nettes aujourd'hui et ne varient plus, tu les connais. Mon énergie s'emploie à étouffer les battements de mon cœur, à contenir mon impatience, d'apprendre enfin que mon innocence est reconnue partout et par tous. Si donc elle est toute passive, ton énergie au contraire doit être toute active et animée du souffle ardent qui alimente la mienne. S'il ne s'agissait que de souffrir, ce ne serait rien. Mais il s'agit de l'honneur d'un nom, de la vie de nos enfants, et je ne veux pas, tu m'entends bien, que nos enfants aient jamais à baisser la tête. Il faut que la lumière soit faite, pleine et entière, sur cette tragique histoire. Rien, par suite, ne doit ni te rebuter, ni te lasser. Toutes les portes s'ouvrent, tous les cœurs battent devant une mère qui ne demande que la vérité pour que ses enfants puissent vivre. C'est presque de la tombe. Ma situation y est comparable, avec la douleur en plus d'avoir un cœur, que je te dis ces paroles. Remercie tes chers parents, nos frères et sœurs, ainsi que Lucie et Henri, de leurs bonnes et affectueuses lettres. Dis-leur tout le plaisir que j'ai à les lire, et que si je ne leur réponds pas directement, c'est que je ne saurais que me répéter toujours. Embrasse bien tes chers parents pour moi. Dis-leur toute mon affection. De longs et bons baisers aux enfants. Quant à toi, ma chère et bonne Lucie, tes lettres sont ma lecture journalière. Continue à m'écrire longuement. Je vis ainsi mieux avec toi et avec mes chers enfants que par la pensée seule, qui, elle, ne vous quitte pas un seul instant. Je t'embrasse de toutes les forces de mon cœur. Ton dévoué, Alfred. Je n'ai pas reçu l'envoi que tu m'annonçais, c'est-à-dire une éponge et du chocolat à la cola. Mais ne te fais nul souci de ma vie matérielle, qui est largement assurée par les conserves qui me sont envoyées de Cayenne. Le 27 juillet 1895. Ma chère Lucie, je t'ai déjà écrit le 15 de ce mois. Je puis aujourd'hui te donner de mes nouvelles et te crier toujours, bien que j'ignore la situation à l'heure présente, courage et foi. Ma santé est bonne. L'âme domine le corps comme le reste. Jamais je n'admettrai l'idée que nos enfants puissent entrer dans la vie avec un nom déshonoré. C'est de cette pensée commune à tous deux que tu dois t'inspirer pour y puiser toute ton indomptable volonté. Je n'ai jamais craint l'avenir, mais il y a des situations morales qui sont telles, quand on ne les a pas méritées, qu'il faut en sortir. Tant pour nous que pour nos enfants, que pour nos familles. Quand on me demande, quand on ne veut que la recherche de la vérité, la recherche des misérables qui ont commis le crime infâme et lâche, On peut se présenter partout, la tête haute. Et cette vérité, il faut l'avoir et tu dois l'avoir. Mon innocence doit être connue de tous. Je veux être avec toi et avec les enfants ce jour-là. Baiser aux chers petits. Je vis en eux et en toi. Je t'embrasse de tout cœur, ton dévoué Alfred. J'espère recevoir de tes nouvelles dans quelques jours. Fin de la 7e partie des Lettres d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus.